Chapitre 78, l'emprise d'une personne sur une autre. Les esprits asservis par la corruption, toutes les formes de la corruption, comme au temps des antédiluviens, se donneront libre cours et activeront les esprits. L'exaltation de la nature que l'on déifie, les divagations de la volonté humaine, l'opinion des impies, tout sera employé par Satan pour atteindre son but. Et le plus triste, c'est que, placés sous cette influence d'égarement, les hommes auront l'apparence de la piété sans être en communion réelle avec Dieu. Comme Adam et Ève, qui mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, beaucoup se nourrissent aujourd'hui de théories erronées. Une science dangereuse, j'ai parlé clairement à propos d'une science dangereuse qui dit qu'une personne doit abandonner son esprit au pouvoir d'une autre. Cette science est la science même du démon. Influence mentale et guérison, dans les soins donnés aux malades, l'effet des influences mentales ne doit pas être négligé, car elles sont un des moyens les plus efficaces pour combattre le mal. Il y a pourtant une forme de prétendue guérison mentale, ou psychothérapie, qui constitue l'un des plus puissants auxiliaires du mal. Par cette pseudo-science, un esprit en domine un autre, de telle façon que l'individualité du plus faible est absorbée par celle du plus fort, et que la volonté de l'un est soumise à celle de l'autre. On prétend modifier ainsi le cours des pensées. Une vertu guérissante serait communiquée au malade, qui pourrait résister à la maladie et arriver à la vaincre. Cette méthode de traitement a été employée par des personnes qui ignoraient sa nature réelle et croyaient à son efficacité. Mais cette fausse science s'appuie sur des principes erronés. Elle est étrangère à la nature et à l'esprit du Christ, et ne conduit pas à celui qui est le salut et la vie. Un individu qui attire à lui l'esprit de ses semblables les éloigne de la véritable source de leur puissance. La volonté de Dieu n'est pas qu'un être humain soumette sa volonté à celle d'un autre, et devienne un instrument passif entre ses mains. Nul ne doit laisser son individualité se fondre dans celle de l'un de ses semblables, et croire qu'un être humain est une source de guérison. Il ne faut compter que sur Dieu. Conscient de sa dignité d'homme, chacun devrait être dirigé par le Créateur lui-même, et jamais par une intelligence humaine quelconque. Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui. Mais il n'en respecte pas moins le principe de la responsabilité individuelle. Il cherche à développer en nous le sentiment de notre dépendance à son égard, et à nous convaincre que nous avons besoin dans la vie d'un guide sûr. Il désire associer l'humanité à la divinité, afin que nous soyons transformés à sa ressemblance. Mais Satan s'efforce de contrecarrer ce plan et d'encourager chez l'homme la confiance en l'homme. Lorsque les esprits se détournent de Dieu, c'est alors que le tentateur réussit à les amener sous sa loi, et à les dominer. Un soulagement temporaire, il ne devrait être permis à personne de dominer l'esprit d'un autre, sous prétexte que celui-ci en tirerait grand profit. La guérison mentale est l'une des plus dangereuses tromperies qui puissent être pratiquées sur quelqu'un. On peut en éprouver un soulagement temporaire, mais l'esprit de celui qui est ainsi dominé ne sera plus jamais aussi fort et aussi fiable. Il se peut que nous soyons aussi faibles que la femme qui toucha le bord du vêtement de Jésus. Mais si nous saisissons l'occasion que Dieu nous donne de nous approcher de lui avec confiance, il répondra aussi rapidement qu'il l'a fait à cet attouchement de la foi. Il n'entre pas dans le plan de Dieu que quelque être humain que ce soit soumette son esprit à une autre personne. Le Christ ressuscité, qui désormais est assis sur le trône à la droite du Père, est le tout-puissant guérisseur. C'est vers lui qu'il faut se tourner car il est la source de guérison. Par lui seul les pécheurs peuvent venir à Dieu tels qu'ils sont. Ils ne sauraient y venir par l'entremise d'aucun esprit humain. Aucun agent ne doit s'interposer entre les agents célestes et ceux qui souffrent. Faire contempler ce qui est divin, nous avons mieux à faire que de chercher à dominer l'humanité par l'humanité. Le médecin devrait détourner les regards de ses malades de ce qui est humain pour qu'ils contemplent ce qui est divin. Au lieu de leur dire de compter sur leurs semblables pour soigner leur âme et leur corps, dirigeons leurs pensées vers celui qui peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Dieu qui a fait l'esprit de l'homme sait ce dont celui-ci a besoin. Lui seul peut guérir. Ceux dont l'esprit et le corps sont malades devraient aller au Christ qui est le restaurateur par excellence. Car je vis, dit-il, et vous vivrez aussi. C'est la vie qu'il faut présenter aux malades. Qu'on leur dise que s'ils ont la foi en Jésus, s'ils collaborent avec lui, s'ils se conforment aux lois de la santé et recherchent la sanctification, il leur communiquera sa vie. En leur faisant connaître le Sauveur sous cet aspect, on leur procurera une force d'une grande valeur, car elle vient d'en haut. Telle est la véritable science de la guérison du corps et de l'esprit. Des êtres humains, non des automates, l'éducation d'un être humain doué de raison n'a rien à voir avec le dressage d'un animal. Celui-ci apprend uniquement à se soumettre à son maître, qui est pour lui l'intelligence et la volonté. Cette méthode, employée parfois avec les enfants, fait d'eux des sortes d'automates, leur esprit, leur volonté, leur conscience sont soumis à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le dessein de Dieu qu'un esprit soit ainsi asservi. Ce qui affaiblisse ou détruise l'individu endosse des responsabilités lourdes de conséquences. Les enfants qui se plient à l'autorité peuvent ressembler à des soldats bien entraînés. Mais quand elle n'est plus là, on constate que leur caractère manque de force, de fermeté. Ils n'ont jamais appris à se diriger eux-mêmes et ne connaissent aucune contrainte, sinon les exigences de leurs parents, de leurs maîtres. Loin d'elles, ils ne savent comment user de leur liberté et souvent se laissent aller à une faiblesse désastreuse. L'individualité de chacun doit être respectée, dans les questions de conscience l'âme doit être sans entrave. Personne ne doit dominer sur l'esprit de quelqu'un, se faire juge à sa place, ou lui prescrire son devoir. Dieu accorde à chaque âme la liberté de penser et la possibilité de se conformer à ses convictions personnelles. Chacun de nous rendra compte, à Dieu, pour lui-même. Personne n'a le droit de fondre sa propre individualité dans celle d'un autre. Partout où un principe est en jeu, que chacun ait dans sa propre pensée une pleine conviction. Le royaume des cieux ne souffre aucune contrainte, aucune domination intolérante. Les anges du ciel ne viennent pas sur la terre pour gouverner et exiger des hommages, mais en qualité de messagers de miséricorde pour coopérer au relèvement de l'humanité. Les esprits humains ne doivent pas être asservis, attachés et conduits par des mains humaines. Il faut exercer l'individualité, Dieu permet à chacun de manifester son individualité. Aucun esprit humain ne doit étouffer l'esprit d'un autre esprit humain. Vouloir imiter l'exemple de quelque être humain, même si à nos yeux nous le considérons comme ayant un caractère presque parfait, serait placer notre confiance dans un être humain imparfait, faillible, incapable de communiquer à une autre personne un seul iota ou un seul trait de l'être de perfection. L'unité ne signifie pas l'effacement de l'identité, nous devons nous unir. Toutefois, souvenons-nous que l'unité chrétienne ne signifie pas que l'identité d'une personne doit se fondre dans celle d'une autre, ni que l'esprit d'un être humain doit être dirigé et dominé par l'esprit d'un autre être humain. Dieu n'a donné à personne le pouvoir que certains, en parole et en acte, entendent revendiquer. Le Seigneur demande à tout homme de rester libre et de suivre les directives de la parole. Se soumettre à Dieu et non à une personne, vous appartenez à Dieu, corps, âme et esprit. Votre esprit lui appartient, de même que vos talents. Nul n'a le droit de dominer l'esprit d'un autre et de juger à sa place pour lui prescrire quel est son devoir. Dans l'accomplissement du service de Dieu, certains droits appartiennent à chaque individu. Nul n'est habilité à nous priver de ses droits, pas plus qu'il est autorisé à nous ôter la vie. Dieu nous a donné la liberté de penser, et il nous appartient de nous conformer à ce que nous estimons être notre devoir. Nous ne sommes que des êtres humains. Or, un esprit humain n'a aucun pouvoir de juridiction sur la conscience d'un autre être humain. Chacun de nous possède une individualité et une identité qui ne saurait abdiquer devant qui que ce soit. Nous sommes individuellement l'ouvrage de Dieu. Le rôle des ministres de l'Évangile, Dieu seul est le guide de la conscience de l'homme. La vérité doit être prêchée partout où une ouverture se présente. La parole de Dieu doit être expliquée à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Tel est le rôle des ministres de Dieu. Ils ne doivent pas enseigner aux hommes à regarder à eux, ni chercher à dominer la conscience des autres. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ne pas s'appuyer sur la chair, nous cherchons souvent auprès de nos semblables de la sympathie et des encouragements qui ne se trouvent qu'en Jésus. Dans sa miséricorde et sa fidélité, Dieu permet souvent que ceux en qui nous plaçons notre confiance nous fassent défaut, afin que nous comprenions combien il est insensé de compter sur l'homme. Ayons en Dieu une foi implicite, humble, exempte de tout égoïsme. Satan prend le contrôle, encourager la science de la guérison mentale, c'est ouvrir une porte par laquelle Satan entrera pour s'emparer de l'esprit et du cœur. Le malin domine à la fois l'esprit qui a capitulé devant le pouvoir d'un autre et l'esprit qui exerce ce pouvoir. Que Dieu nous aide à comprendre la vraie science qui consiste à bâtir sur le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Limite imposée à Satan, la protection des intérêts vitaux qui vous concernent personnellement est entre vos mains. Nul ne peut leur nuire sans votre consentement. Toutes les légions sataniques ne peuvent vous faire du mal si vous n'offrez pas votre âme aux artifices et aux flèches de Satan. Votre perte n'arrivera jamais, à moins que vous n'y consentiez. Si votre propre esprit n'est pas pollué, toute la corruption qui vous entoure ne saurait vous entacher ou vous souiller. Satan ne peut affecter l'esprit ou l'intelligence à moins que nous ne les soumettions à son pouvoir. Ce n'est pas la foi en Jésus, l'acceptation de la vérité d'origine céleste soumet l'esprit au Christ. Ainsi, la santé de l'âme qui résulte de l'acceptation des purs principes et de l'obéissance à ces derniers se traduit en paroles et en actes de justice. La foi qui produit cela n'est pas celle qui accepte qu'un esprit domine un autre esprit au point qu'une personne agit selon la volonté d'une autre. Les membres d'Église qui souscrivent à cette science-là ont beau être considérés comme ayant une foi saine, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Il s'agit d'une foi dans l'œuvre que Satan réalise. Le malin montre des erreurs monumentales, et au moyen des miracles qu'il accomplit, nombreux sont ceux qui l'égarent. Il agira ainsi de plus en plus. Une Église saine est composée de membres saints, d'hommes et de femmes qui ont fait l'expérience de la vraie piété.